France Culture.
Mythologie de Roland Barthes.
Les Romains au cinéma. Dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front. Les uns l'ont frisée, d'autres filiforme, d'autres huppée, d'autres huilée, tous l'ont bien peignée. Et les chauves ne sont pas admis, bien que l'histoire romaine en ait fourni un bon nombre. Ceux qui ont peu de cheveux n'ont pas été quittes à si bon compte, et le coiffeur, artisan principal du film, a su toujours leur soutirer une dernière mèche qui a rejoint elle aussi le bord du front, de ces fronts romains dont l'exiguïté a de tout temps signalé un mélange spécifique de droit, de vertu et de conquête. Qu'est-ce donc qui est attaché à ces franges obstinées? Tout simplement l'affiche de la romanité. On voit donc opérer ici à découvert le ressort capital du spectacle qui est le signe. La mèche frontale inonde d'évidence. Nul ne peut douter d'être à Rome autrefois. Et cette certitude est continue. Les acteurs parlent, agissent, se torturent, débattent des questions universelles sans rien perdre grâce à ce petit drapeau étendu sur le front de leur vraisemblance historique. Leur généralité peut même s'enfler en toute sécurité, traverser l'océan et les siècles, rejoindre la binette yankee des figurants d'Hollywood, peu importe, tout le monde est rassuré, installé dans la tranquille certitude d'un univers sans duplicité, où les Romains sont Romains par le plus lisible des signes, le cheveu sur le front. Un Français, aux yeux de qui les visages américains gardent encore quelque chose d'exotique, juge comique le mélange de ces morphologies de gangster-shérif et de la petite frange romaine. C'est plutôt un excellent gag de music-hall. C'est que pour nous, le signe fonctionne avec excès. Il se discrédite en laissant apparaître sa finalité. Mais cette même frange, amenée sur le seul front naturellement latin du film, celui de Marlon Brando, nous en impose sans nous faire rire. Et il n'est pas exclu qu'une part du succès européen de cet acteur soit due à l'intégration parfaite de la capillarité romaine dans la morphologie générale du personnage. À l'opposé, Jules César est incroyable, avec sa bouille d'avocat anglo-saxon déjà rodée par 1000 seconds rôles policiers ou comiques, lui dont le crâne bonasse est péniblement ratissé par une mèche de coiffeur. Dans l'ordre des significations capillaires, voici un sous-signe, celui des surprises nocturnes. Portia et Calpurnia, éveillées en pleine nuit, ont les cheveux ostensiblement négligés. La première, plus jeune, a le désordre flottant, c'est-à-dire que l'absence d'après y est en quelque sorte au premier degré. La seconde, mûre, présente une faiblesse plus travaillée. Une natte contourne le cou et revient par devant l'épaule droite de façon à imposer le signe traditionnel du désordre qui est l'asymétrie. Mais ces signes sont à la fois excessifs et dérisoires. Ils postulent un naturel qu'ils n'ont même pas le courage d'honorer jusqu'au bout. Ils ne sont pas francs. Autre signe de ce Jules César, tous les visages sus sans discontinuer. Hommes du peuple, soldats, conspirateurs, tous baignent leurs traits austères et crispés dans un suintement abondant de vaseline. Et les gros plans sont si fréquents que, de toute évidence, la sueur est ici un attribut intentionnel. Comme la frange romaine ou la natte nocturne, la sueur est, elle aussi, un signe. De quoi? De la moralité. Tout le monde sue, parce que tout le monde débat quelque chose en lui-même. Nous sommes censés être ici dans le lieu d'une vertu qui se travaille horriblement, c'est-à-dire dans le lieu même de la tragédie. Et c'est la sueur qui a charge d'en rendre compte. Le peuple, traumatisé par la mort de César, puis par les arguments de Marc-Antoine, le peuple sue, combinant économiquement dans ce seul signe l'intensité de son émotion et le caractère fruste de sa condition. Et les hommes vertueux, Brutus, Cassius, Casca, ne cessent eux aussi de transpirer, témoignant par là de l'énorme travail physiologique qu'opère en eux la vertu qui va accoucher d'un crime. Suez, ses pensées. Ce qui repose évidemment sur le postulat bien propre à un peuple d'hommes d'affaires que penser est une opération violente, cataclysmique, dont la sueur est le moindre signe. Dans tout le film, un seul homme ne sue pas, reste glabre, mou, étanche. César. Évidemment, César, objet du crime, reste sec, car lui, il ne sait pas, il ne pense pas, il doit garder le grain net, solitaire et poli d'une pièce à conviction. Ici encore, le signe est ambigu. Il reste à la surface, mais ne renonce pas pour autant à se faire passer pour une profondeur. Il veut faire comprendre, ce qui est louable, mais se donne en même temps pour spontané, ce qui est triché. Il se déclare à la fois intentionnel et irrépressible, artificiel et naturel, produit et trouvé. Ceci peut nous introduire à une morale du signe. Le signe ne devrait se donner que sous deux formes extrêmes, ou franchement intellectuel, réduit par sa distance à une algèbre, comme dans le théâtre chinois, où un drapeau signifie totalement un régiment, ou profondément enraciné, inventé en quelque sorte à chaque fois, livrant une face interne et secrète, signal d'un moment et non plus d'un concept. C'est alors, par exemple, l'art de Stanislavski. Mais le signe intermédiaire, la frange de la romanité ou la transpiration de la pensée, dénonce un spectacle dégradé qui craint autant la vérité naïve que l'artifice total. Car s'il est heureux qu'un spectacle soit fait pour rendre le monde plus clair, il y a une duplicité coupable à confondre le signe et le signifié. Et c'est une duplicité propre au spectacle bourgeois. Entre le signe intellectuel et le signe viscéral, cet art dispose hypocritement un signe bâtard, à la fois elliptique et prétentieux, qu'il baptise du nom pompeux de « naturel ».
Chez les nègres. Match nous a raconté une histoire qui en dit long sur le mythe petit bourgeois du nègre. Un ménage de jeunes professeurs a exploré le pays des cannibales pour y faire de la peinture. Ils ont emmené avec eux leur bébé de quelques mois, Bichon. On s'est beaucoup extasié sur le courage des parents et de l'enfant. D'abord, il n'y a rien de plus irritant qu'un héroïsme sans objet. C'est une situation grave pour une société que de se mettre à développer gratuitement les formes de ses vertus. Si les dangers courus par le jeune Bichon, torrent, fauve, maladie, etc., étaient réels, il était proprement stupide de les lui imposer sous le seul prétexte d'aller faire du dessin en Afrique et pour satisfaire au panache douteux de fixer sur la toile une débauche de soleil et de lumière. Il est encore plus condamnable de faire passer cette stupidité pour une belle audace, bien décorative et touchante. On voit comment fonctionne ici le courage. C'est un acte formel et creux. Plus il est immotivé, plus il inspire de respect. On est en pleine civilisation scout, où le code des sentiments et des valeurs est complètement détaché des problèmes concrets de solidarité ou de progrès. C'est le vieux mythe du caractère, c'est-à-dire du dressage. Les exploits de Bichon sont de même sorte que les ascensions spectaculaires, des démonstrations d'ordre éthique qui ne reçoivent leur valeur finale que de la publicité qu'on leur donne. Aux formes socialisées du sport collectif correspond souvent dans nos pays une forme superlative du sport vedette. L'effort physique n'y fonde pas un apprentissage de l'homme à son groupe, mais plutôt une morale de la vanité, un exotisme de l'endurance, une petite mystique de l'aventure, coupé monstrueusement de toute préoccupation de sociabilité. Le voyage des parents de Bichon dans une contrée, située d'ailleurs très vaguement et donnée surtout comme le pays des nègres rouges, sorte de lieu romanesque dont on atténue sans en avoir l'air les caractères trop réels, mais dont le nom légendaire propose déjà une ambiguïté terrifiante entre la couleur de leur teinture et le sang humain qu'on est censé y boire. Ce voyage nous est livré ici sous le vocabulaire de la conquête. On part, non armé sans doute, mais la palette et le pinceau à la main. C'est tout comme s'il s'agissait d'une chasse ou d'une expédition guerrière, décidée dans des conditions matérielles ingrates. Les héros sont toujours pauvres, notre société bureaucratique ne favorise pas les nobles départs, mais riches de son courage et de sa superbe ou grotesque inutilité. Le jeune Bichon, lui, joue les Parsifales. Il oppose sa blondeur, son innocence, ses boucles et son sourire au monde infernal des peaux noires et rouges, aux scarifications et aux masques hideux. Naturellement, c'est la douceur blanche qui est victorieuse. Bichon soumet les mangeurs d'hommes et devient leur idole. Les blancs sont décidément faits pour être des dieux. Bichon est un bon petit français. Il adoucit et soumet sans coup férir les sauvages. À 2 ans, au lieu d'aller au bois de Boulogne, il travaille déjà pour sa patrie, tout comme son papa, qui, on ne sait trop pourquoi, partage la vie d'un peloton de méharistes et traque les pillards dans le maquis. On a déjà deviné l'image du nègre qui se profile derrière ce petit roman bien tonique. D'abord, le nègre fait peur, il est cannibale. Et si l'on trouve Bichon héroïque, c'est qu'il risque en fait d'être mangé. Sans la présence implicite de ce risque, l'histoire perdrait toute vertu de choc. Le lecteur n'aurait pas peur. Aussi, les confrontations sont multipliées, où l'enfant blanc est seul, abandonné, insouciant et exposé dans un cercle de noir potentiellement menaçant. La seule image pleinement rassurante du nègre sera celle du boy, du barbare domestiqué. Couplé d'ailleurs avec cet autre lieu commun de toutes les bonnes histoires d'Afrique, le boy voleur qui disparaît avec les affaires du maître. À chaque image, on doit frémir de ce qui aurait pu arriver. On ne le précise jamais, la narration est objective. Mais en fait, elle repose sur la collusion pathétique de la chair blanche et de la peau noire, de l'innocence et de la cruauté, de la spiritualité et de la magie. La belle enchaîne la bête, Daniel se fait lécher par les lions, la civilisation de l'âme soumet la barbarie de l'instinct. L'astuce profonde de l'opération Bichon, c'est de donner à voir le monde nègre par les yeux de l'enfant blanc. Tout y a évidemment l'apparence d'un guignol. Or, comme cette réduction recouvre très exactement l'image que le sens commun se fait des arts et des coutumes exotiques, voilà le lecteur de Match confirmé dans sa vision infantile, installé un peu plus dans cette impuissance à imaginer autrui que j'ai déjà signalée à propos des mythes petits bourgeois. Au fond, le nègre n'a pas de vie pleine et autonome. C'est un objet bizarre. Il est réduit à une fonction parasite, celle de distraire les hommes blancs par son baroque vaguement menaçant. L'Afrique, c'est un guignol un peu dangereux. Et maintenant, si l'on veut bien mettre en regard de cette imagerie générale, Match 1,5 million de lecteurs environ, les efforts des ethnologues pour démystifier le fait nègre, les précautions rigoureuses qu'ils observent déjà depuis fort longtemps lorsqu'ils sont obligés de manier ces notions ambiguës de primitif ou d'archaïque, la probité intellectuelle d'hommes comme Mauss, Lévi-Strauss ou Leroy Gourhan aux prises avec de vieux termes raciaux camouflés, on comprendra mieux l'une de nos servitudes majeures. Le divorce accablant de la connaissance et de la mythologie. La science va vite et droit en son chemin. Mais les représentations collectives ne suivent pas. Elles sont des siècles en arrière, maintenues stagnantes dans l'erreur par le pouvoir, la grande presse et les valeurs d'ordre. Nous vivons encore dans une mentalité prévoltairienne. Voilà ce qu'il faut sans cesse dire. Car du temps de Montesquieu ou de Voltaire, si l'on s'étonnait des Persans ou des Hurons, c'était du moins pour leur prêter le bénéfice de l'ingénuité. Voltaire n'écrirait pas aujourd'hui les aventures de Bichon comme l'a fait Match. Il imaginerait plutôt quelques bichons cannibales ou coréens aux prises avec le guignol napalmisé de l'Occident.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard, et voilà.
C'était Mythologie de Roland Barthes.
Aujourd'hui, Les Romains au cinéma, lu par Marc-Henri Boisse. Bichon chez les nègres, par Juliette Heymann. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Annick Brien. Assistante, Céline Terce. Réalisation, Jean Couturier. Monsieur William,
il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.